Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
On va lire ensemble les textes sur lesquels vont reposer la prédication, en tout cas les textes principaux. Le premier, on peut aller tout au début de la Bible, en Genèse, au chapitre 2, et on lira une fois le verset 7, et puis ensuite les versets 21 et 22. Donc Genèse, chapitre 2, verset 7 pour commencer. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Et puis les versets 21 à 22, juste après. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà, et puis on avance maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, dont d'ailleurs on a déjà lu un petit bout ailleurs, avant, en introduction, qu'on va retrouver ici. Luc, chapitre 1, et ce sera les versets 26 à 38 qu'on va lire ensemble. Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Alors on se retrouve dans le contexte de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Depuis le verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. » Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Et un dernier texte encore, on va un peu plus loin dans les Épîtres, en 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, et on lira les versets 20 à 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Voilà pour les textes en vue de la prédication. Et voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Timothée, notre pasteur. Bienvenue, merci de t'être préparé pour nous.
Voilà, avant de commencer, je rappelle qu'il y a donc les petits papiers pour suivre aussi, particulièrement pour les enfants et pour les autres aussi. N'hésitez pas à même vous lever pour aller les chercher, il n'y a pas de problème. Noël sans lumière. J'aurais envie d'éteindre toutes les lumières, mais bon, je ne vais pas le faire. Pour qu'on comprenne, Noël sans lumière, c'est comme lire la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. Et je prie que ce matin, nous soyons éclairés pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut nous dire ce matin. À Noël, nous avons l'habitude de parler de la naissance de Jésus-Christ et c'est une occasion aussi de réfléchir à certains aspects de sa venue sur Terre. Alors, chaque année, je cherche à parler d'un aspect de la venue de Jésus-Christ en lien avec sa venue dans le monde ou en lien avec sa personne, puisque Jésus n'est pas resté dans la crèche. Ça, c'est un élément. Ne faites pas cette erreur quand vous pensez à Jésus-Christ de ne penser qu'à lui dans la crèche. Et si vous avez de la peine à ne pas faire cette erreur, regardez la vidéo de mon ami Benjamin Hagen, parce qu'il en a parlé dans sa petite vidéo. Nous avons déjà vu ensemble que Jésus est Dieu, devenu humain. Nous avons parlé du papa, ou plutôt des papas de Jésus. Nous avons parlé de sa maman. Nous avons même pris le temps, une fois, pour réfléchir à l'importance de la virginité de sa maman. Nous avons parlé de Jésus comme roi, comme sacrificateur et comme prophète. On a même parlé des bergers pour savoir qui c'était. On a même vu qui étaient ces mages, d'où ils venaient. Est-ce qu'on a des liens dans la Bible ? Il y en a. Donc, si vous voulez connaître toutes ces choses-là, il faut aller écouter les prédications du passé. Et ça, vous avez un lien sur votre document qui vous permet d'y arriver très facilement. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? De quoi va-t-on parler ? Et je me suis posé une question cette année, c'est pourquoi Jésus est-il un homme ? Pourquoi n'est-il pas une femme ? Et Jésus était-il costaud ou était-il un peu type efféminé ? Eh bien, c'est ce qu'on va réfléchir ce matin avec deux points principaux. Le premier point, pourquoi Jésus devait-il être un homme ? Et le deuxième point, Jésus était-il viril ? Bon, ça s'annonce bien. Hein ? Bon, on va voir ça ensemble. Alors, pourquoi Jésus devait-il être un homme ? Ce petit enfant dans la crèche avec un chromosome X qui vient de sa mère et un chromosome Y qui vient directement de Dieu, qui l'a implanté. Il n'y a pas eu de relation sexuelle, n'en déplaise à tous ceux qui veulent dire ça, mais il y a eu un acte créateur. Et justement, pour comprendre pourquoi Jésus devait être un homme masculin, il faut revenir à la création. Donc revenons à la création. Le premier chapitre de la Genèse nous donne un tableau général de la création avec ce passage extraordinaire dans Genèse 1. Donc vous pouvez regarder dans vos Bibles. Il faut toujours vérifier ce que je raconte, c'est important. Genèse 1, au verset 26 à 28, donc on n'a pas lu ce texte avant, qui dit ceci, ça c'est la vue générale, hein. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Là, nous voyons que l'homme et la femme ont la même image de Dieu. L'homme et la femme ont la même image de Dieu. Ils ont une valeur identique. Ils ont une valeur identique. L'un n'est pas supérieur à l'autre et chacun a une place importante dans le plan de Dieu. Donc l'homme et la femme ont la même image de Dieu, ils ont une valeur identique, l'un n'est pas supérieur à l'autre et chacun a une place importante dans le plan de Dieu. Le deuxième chapitre de la Genèse donne plus de détails pour comprendre la différence entre l'homme et la femme. L'homme masculin est tiré de la poussière, selon Genèse 2:7. On l'a vu tout à l'heure. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Alors que l'être féminin, la femme, n'est pas tirée de la poussière. Elle est tirée de l'homme, selon Genèse 2:21-22. Il est dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. » Et c'est ici une clé de compréhension. Alors, si vous êtes parti dans vos pensées, il faut juste revenir maintenant. Après, si vous repartirez, ben, faudra revenir de temps en temps. Mais là, c'est vraiment important. La clé ici, c'est que le masculin englobe le féminin. Je vais encore en parler un peu, mais il englobe le féminin. En fait, il n'y est pas opposé. Le masculin n'est pas opposé au féminin. Elle est sortie de lui. Et s'il s'y opposait, il s'opposerait en fait à lui-même. Il n'y est pas soumis. Certains disent il n'est pas sorti de sa tête. Il n'a pas à l'écraser. D'autres disent il n'est pas sorti de ses pieds. Ils sont côte à côte, proches du cœur. Adam est la source de l'humanité. Il n'y a pas eu d'humain avant lui et ni en même temps que lui lorsqu'il est venu à l'existence. C'est 1 Timothée 2,13, Paul le reprend, il dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Adam est comme la graine qui contient l'arbre qui lui-même portera les fruits pour toute la forêt. Alors pourquoi Jésus devait-il être un homme ? Eh bien, une première raison est que la création de l'humanité nous montre que le masculin englobe le féminin, ainsi Jésus, en étant masculin, englobe toute l'humanité. Donc une première raison est que la création de l'humanité nous montre que le masculin englobe le féminin, puisqu'il a été tiré de l'homme, c'est ce que je souligne ici. Ainsi Jésus, étant masculin, englobe toute l'humanité. Mais Dieu a tellement bien fait les choses que même si Adam englobe toute l'humanité, l'homme ne peut pas voir le jour sans la femme. De qui il sort après Adam ? Ève, c'est la seule qui est sortie de l'homme. Tous les autres, ici, là, tous, nous sommes tous sortis d'une femme. Et Dieu l'a fait exprès. Paul dit bien dans 1 Corinthiens 11, j'aime bien ce texte qui dit « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu. » J'espère qu'on a un peu compris maintenant l'idée que Adam masculin englobe le féminin. Et cela va changer même notre manière de voir, et j'en avais déjà une fois parlé, notre grammaire. Où souvent il est dit, lorsqu'il y a un masculin et féminin, c'est le masculin qui l'emporte. Vous avez déjà entendu ça ? Effacez ça de vos têtes. C'est très mauvais. Il n'y a pas de combat dans l'histoire. C'est le masculin englobe, pas emporte. Pas la même chose. Il n'emporte rien, il n'y a pas de lutte ici. Ça va donc aussi permettre de lire des textes bibliques avec les termes originaux de frères, que nous ne devons pas traduire de frères et sœurs, comme ça se fait dans beaucoup de traductions actuellement. Parce que dans les textes originaux, il n'y a que les frères. Pourquoi ? Parce que ça englobe. Le masculin englobe. Il n'est pas en train d'écarter. Et là, ça signifie aussi que l'écriture dite inclusive n'inclut rien du tout. Elle marque plutôt une séparation, alors que le masculin de la création englobe tout. Ce petit enfant dans la crèche à Noël, Jésus, est masculin parce qu'il englobe toute l'humanité. C'est un premier élément que je voulais voir avec vous ce matin. Et en voici un deuxième. C'est que le masculin dans la Bible a un rôle de représentation. Un rôle de représentation. Adam était le représentant de l'humanité. Et plusieurs textes dans le Nouveau Testament en parlent. Nous sommes tous descendants d'Adam qui nous a transmis l'humanité, mais aussi la nature du péché et ses conséquences, qui est la mort. C'est pour ça qu'on meurt tous, en fait, parce qu'on a reçu ça. Romains 5, 12 l'explique clairement. Ah ben regardez, prenez vos Bibles, Romains 5, 12... C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jésus étant le nouvel Adam, il est masculin comme le premier Adam parce qu'il a un rôle de représentativité. Jésus est le nouvel Adam, il est masculin comme le premier Adam parce qu'il a un rôle de représentativité. Et le parallèle est clair dans le texte de 1 Corinthiens 15 qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Mettant en contraste la mort transmise par Adam et la vie transmise par le nouvel Adam, Jésus-Christ. Je vais relire le texte. Donc, 1 Corinthiens, c'est juste après Romains. Donc, on tourne quelques pages, on va au chapitre 15. On arrive au verset 20 à 22. Qui dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est le prémisse de ceux qui sont décédés. » Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Un homme a fait entrer la mort dans le monde, un homme fait entrer la résurrection. Un homme a fait entrer la mort dans le monde et un homme fait entrer la résurrection. Et Adam, en tant qu'homme, est représentant de tous ceux qui meurent. Et Jésus, en tant qu'homme, englobant, hein, on l'a vu tout à l'heure, est représentant de tous ceux qui ressuscitent. Alors, en réfléchissant au fait que Jésus est un homme, dernièrement, j'ai lu un chapitre dans le livre « Le Christ incomparable ». Ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un livre qui me touche beaucoup actuellement. Et puis, j'aimerais vous partager ce qui a été écrit dans le chapitre intitulé « La virilité de Christ », que j'ai d'ailleurs envoyé en audio au groupe d'hommes, donc les hommes qui l'ont écouté. Ben, ça vous fera un petit rappel, tout simplement. Donc, c'est notre deuxième point. Le premier point, c'était cette notion de pourquoi Jésus devait être un homme. Alors, j'espère que les deux éléments, que la masculinité englobe et puis que la masculinité est représentative, vous aident à le comprendre. Et deuxièmement, Jésus était-il viril? Tout d'abord, réfléchissons à la manière dont Jésus est souvent représenté, ce que j'appellerais ici la représentation populaire. Ensuite, nous irons regarder les données bibliques pour terminer par une réflexion sur la virilité selon Jésus, qui est un modèle masculin. Donc, la représentation populaire d'abord. Alors maintenant, il faut juste réfléchir à tout ce que vous avez déjà vu comme image sur Jésus. Je ne peux pas vous laisser assez de temps pour réfléchir à tout ce que vous avez déjà vu, mais voilà, réfléchissez quand même quelques instants. Comment Jésus a été représenté dans des peintures, dans ce que vous avez pu voir? Eh bien, très souvent, ce petit bébé dans la crèche, lorsqu'il devient adulte, est très pâle. Il a les mains très fines et un visage plutôt avec des traits féminins. Je ne dis pas que c'est tout ce qui représente Jésus, mais il y a souvent ces éléments qui sont là. Très souvent, ce petit bébé dans la crèche, lorsqu'il devient adulte, est très pâle, il a les mains très fines et un visage avec des traits plutôt féminins. Ce n'est pas vraiment la carrure d'un charpentier. Un blond aux yeux bleus, avec les cheveux longs, c'est pas vraiment un sémite. Comme le dit Sanders, il a été plus fréquemment représenté comme étant féminin et faible que masculin et viril. Présenter le Seigneur de façon si déformée appelle une rectification. Et voici une illustration qui m'a parlé, que je reprends. Un homme prenait conseil auprès d'un chrétien et une conversation de ce genre s'ensuivit. Et il dit à celui qui est chrétien, là, je n'admire pas votre Jésus. Il était plutôt faible, efféminé. Moi, j'aime les hommes qui ont du sang dans les veines. Okay. L'autre lui répond, mais je suppose que vous avez entendu les histoires bibliques habituelles quand vous étiez plus jeune. Il dit, oui, et je les aimais quand j'étais gamin. Ok. Alors, je suppose que le rude Élie, hein, qui parut de manière spectaculaire et courageuse devant tout le peuple et devant le roi d'Israël et qui lançait un défi à la nation tout entière, était un de vos personnages favoris. Il y avait du sang dans les veines, hein, si vous voulez. Puis il dit, ben, vous avez deviné juste, j'ai toujours admiré sa virilité. Ok. Puis il dit, mais, et dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, avec son costume peu conventionnel et son courage de prédication, est-ce qu'il ne vous attirait pas? Oh, mais c'est curieux, vous êtes tombé justement sur mes deux personnages préférés. Hein? Mais après cela, vous surprendrait-il d'apprendre que quand Jésus demande à ses disciples ce que les gens disaient de lui, ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste et les autres Élie. Si Jésus avait été faible et efféminé comme vous le prétendez, risquait-on de les confondre avec le rude Élie et l'intrépide Jean-Baptiste ? Ah ben, j'avais jamais pensé à ça auparavant. Et peut-être que la plupart d'entre nous ne l'ont pas vraiment compris non plus. Or, peut-être que le terme virilité peut déranger quand on parle de Jésus. Mais il est utile de s'arrêter un petit peu sur le sujet. Parce qu'on a tendance à penser que la bonté, l'innocence, la patience et la pureté n'appartiennent qu'aux faibles, alors que la réalité est tout autre. On a tendance à penser que la bonté, l'innocence, la patience, la pureté n'appartient qu'aux faibles, alors que la réalité est tout autre. Et j'aimerais justement regarder avec vous maintenant les données bibliques de qui est Jésus. Eh bien, premier élément, je vais donner des affirmations, puis ensuite on va un petit peu y réfléchir. Première affirmation, c'est que Jésus est courageux et déterminé. Jésus est courageux et déterminé. Jésus a connu le danger que la plupart des hommes, cependant, quand il l'affrontait. Donc, il a connu des dangers plus grands que ce que nous pourrions même imaginer. Satan l'a attaqué plus que personne d'autre. Hein, parce que c'était sa défaite. Si Jésus gagnait, c'était sa défaite à lui. Et cependant, quand il l'affrontait, il ne montrait aucun signe de timidité ou de peur. Vous ne trouverez pas de timidité ou de peur de Jésus face au danger. Il est courageux et déterminé. Et il savait qu'il allait souffrir à Jérusalem. Et pourtant, il n'a pas reculé devant la mort. Il est écrit dans Luc 9, 51, lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus n'a pas montré un signe de faiblesse face à la souffrance, face aux démons ou face aux hommes qui lui voulaient du mal. Un deuxième élément. Jésus parle même si cela a des conséquences difficiles pour lui. Et il garde le silence même si cela se retourne contre lui. Donc il parle même si ça a des conséquences pour lui et il garde le silence même si cela se retourne contre lui. Et deux exemples très forts à ce propos se passent lors du procès de Jésus en fait. Une fois devant les autorités juives et une fois devant l'autorité romaine. Et là, on peut relire dans Matthieu 26, alors allez dans vos Bibles, Matthieu 26, et puis les versets 62 à 68. Donc rappelez l'idée, hein, c'est Jésus, il dit des choses qui pourraient se retourner contre lui, il n'a pas peur de le faire, et parfois Jésus ne dit rien, même si ça pourrait le compromettre. Puis là, on a les deux choses dans ce texte. Donc Matthieu 26, verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? De quoi témoigne-t-il contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant « Christ, devine qui t'a frappé, etc. » Le silence de Jésus face aux accusations est courageux et éloquent. Face aux fausses accusations, il ne se défend pas. Or qu'il pouvait le faire, hein ? Non ? Et les paroles de Jésus lorsqu'il est interrogé directement sont tout autant courageuses parce qu'il savait que ses paroles allaient le condamner. Et devant Pilate, il eut la même attitude, ne disant rien face aux diverses accusations et parlant de son royaume lorsque Pilate le questionne directement. Troisième élément qu'on l'on voit avec Jésus, Jésus a une grande endurance physique. Jésus a une grande endurance physique. Certains ont estimé le nombre de kilomètres qu'il a parcouru durant son ministère de 3 ans. Combien pensez-vous qu'il a parcouru de kilomètres durant ce ministère ? Pendant 3 ans, il a beaucoup marché. Et on arrive à plus de 4000 kilomètres. Sachant que tous ces voyages n'ont pas été racontés, en plus, dans les évangiles. Son corps était soumis à de rudes journées. Il était souvent pressé par la foule. Et même des forces sortaient de lui lorsqu'il guérissait. L'exemple de la femme qui avait une perte de sang nous le montre. Vous vous souvenez peut-être ce texte qui dit « Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui ». Puis là, il se retourne, il dit « Qui m'a touché ?» Enfin, je ne vais pas faire le texte ici, mais c'est pour vous dire qu'il avait besoin d'une constitution physique très forte, il avait une endurance physique. Donc peut-être ça peut un peu commencer à changer votre façon de voir comment était Jésus. Un autre élément, Jésus est ferme et inflexible dans le bien et face au mal. Il est ferme et inflexible dans le bien et face au mal. Vous savez, un homme sans compassion devient dur et cruel. Un homme sans compassion devient dur et cruel. Celui qui n'a que de la compassion est sentimental, tout simplement. Mais la miséricorde et la justice s'harmonisent dans le caractère du Fils de l'homme. Il y a une harmonie chez lui. Lorsqu'il fait le ménage au temple, nous ne voyons pas un être efféminé, mais un homme solide qui agit avec fermeté. Vous vous souvenez dans Jean 2, où là il a même fait un fouet de corde, il chasse les gens hors du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Vous voyez les bœufs là ? C'est pas juste, c'est pas tout petit. Moi je ne crois pas qu'il était fou furieux, Jésus. Je crois qu'il était ferme. Il ne faut pas confondre les choses. Il a fait aucune erreur dans sa vie. Donc même là, même dans le temple. Mais il a renversé les tables pour leur faire comprendre. Ce n'est pas une bonne chose ce qu'ils vivent. Et il a dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Parce que ses disciples se souvenaient à ce moment-là qu'il avait du zèle pour la maison de l'Éternel. Un autre élément encore, Jésus a une maîtrise de lui-même remarquable. Il se maîtrise complètement. Il a toujours contrôlé ses émotions, même s'il vivait parfois des choses très, très fortes émotionnellement. Lorsque nous voyons quelqu'un de stable émotionnellement, peut-être vous connaissez des gens autour de vous qui sont stables émotionnellement, ou du moins qui cherchent à maîtriser leurs émotions. Il y a toujours des signes involontaires d'impatience ou de gestes ou de postures ou de réactions qui trahissent qu'il faut un peu maîtriser ce qui est dedans quand même. Jésus, lui, ne connaissait pas de contradiction entre ce qu'il montrait et ce qui se passait en lui. Il avait une maîtrise de lui-même remarquable. Un autre élément encore, Jésus n'a pas peur de dénoncer le mal. Il n'a pas peur de dénoncer le mal. Si vous ne me croyez pas, relisez Matthieu 23. Matthieu 23, Jésus n'a pas peur de dire ce qui concerne les scribes et les pharisiens hypocrites. Il leur dit « Malheur à vous !» Malheur, enfin, vous pouvez lire tout le texte. Et il le dit très clairement. De nouveau, je ne pense pas que Jésus est en colère, fâché, leur veut du mal. Je pense plutôt qu'il est ferme. C'est un appel à la repentance aussi. Mais vous savez que Jésus, il n'a pas mis des paroles comme ça impitoyables face au fils prodigue ou à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Non, il ne l'a pas fait dans ce cadre-là. Il l'a fait face à la classe dirigeante et aux leaders religieux qui disaient vivre selon Dieu et qui ne le faisaient pas. Un autre élément, c'est que Jésus ne dissimule rien, il est franc. Il est tellement franc qu'il ne cache pas la difficulté du ministère à ses disciples. Il ne le cache pas. Juste un exemple. Il leur dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Il est clair. Il ne va pas cacher les choses. Et un dernier élément, Jésus fait face à la souffrance et l'hostilité. Il fait face. On pourrait dire qu'il prend ses responsabilités. Jésus ne manifeste pas de faiblesse craintive devant la souffrance. Il se montrera viril en tout point aux heures les plus éprouvantes de sa vie. Même sur la croix, alors qu'on lui offrait d'avoir un peu de soulagement avec un calmant, il le refuse car il veut faire face à la souffrance avec lucidité. Jésus, par tous ses aspects, nous enseigne une virilité à suivre. Si vous aviez une idée de la virilité avant, ben j'espère que petit à petit, tout ce qu'on vient de voir maintenant, ça doit entrer dans cette notion. La virilité, selon Jésus, est un exemple pour les hommes, un exemple pour tous les hommes. J'aime d'ailleurs dire aux jeunes garçons, je le dis encore à ceux qui sont là, « Tu as reçu une force plus grande que les filles. Sais-tu pourquoi ?» Alors, même tous les hommes, on doit savoir répondre à ça. Hein. Pourquoi ? C'est pour les protéger et en prendre soin. Certains diront, ouais, mais les femmes sont aussi fortes. Mais je n'en doute pas. Il n'y a pas une question que je doute que la femme est aussi forte. Mais la force physique est généralement supérieure chez les hommes. D'ailleurs, dernièrement, je lisais un article le 10 décembre. Ça ne fait pas longtemps, hein. Donc, ne me dites pas que je suis allé chercher dans... Le 10 décembre, qui disait que les femmes ne veulent pas de trans dans le tennis féminin. La numéro 1 mondiale du circuit féminin de tennis, Aryna Sabalenka, a jugé mardi injuste que les instances du circuit professionnel féminin autorisent les femmes transgenres à participer au tournoi WTA. Voici ce qu'elle dit. Je trouve que c'est tout simplement injuste pour une femme d'affronter des joueuses qui sont biologiquement des hommes, a-t-elle poursuivi. Une femme travaille toute sa vie pour repousser ses limites et d'un coup, c'est comme si elle devait affronter un homme, quelqu'un de biologiquement beaucoup plus fort. Je suis en désaccord avec ce genre de choses dans le sport, a conclu la quadruple lauréat d'un tournoi du Grand Chelem. La force physique reçue par les hommes est donnée, mes chers frères, mes chers amis, les hommes, écoutez ça, c'est très important, est donné pour prendre soin et protéger comme Jésus l'a fait avec bienveillance et bonté. Et si vous et moi, je m'inclus, hein, moi aussi je dois apprendre, je dois bien vivre, hein, nous l'utilisons pour autre chose et pour nous-mêmes, honte à nous et allons nous repentir. Mais la virilité de Jésus n'est pas seulement un exemple pour les hommes, c'est aussi un bienfait pour les femmes. C'est un bienfaiteur pour les femmes. Jésus a une attitude exemplaire vis-à-vis des femmes et les a mises en valeur, il les a honorées. Jésus a une attitude exemplaire vis-à-vis des femmes, les a mises en valeur et les a honorées. Je vous donne quelques éléments que vous puissiez bien le comprendre. Il avait l'habitude peu commune de parler librement aux femmes, même en public. Je ne peux pas vous donner chaque fois tout le contexte, parce que je ferai une autre prédication. Mais de temps en temps, je dis quand même. À l'époque, parler avec une femme, c'était mal vu. Il y avait du mépris. Puis Jésus dit non. Il n'y a pas de mépris. La femme et l'homme sont les deux images de Dieu. Il n'y a pas de mépris. On est égaux. Côte à côte, hein, vous vous souvenez. Il avait l'habitude peu commune de parler librement aux femmes, même en public. Si vous voulez des textes, il y a dans Jean 4, 27, dans Jean 8, Luc 7, etc. Il a souvent répondu aux besoins de femmes qui souffraient, comme la belle-mère de Pierre, la femme courbée depuis plus de 18 ans, la femme qui souffrait d'hémorragie, la femme syrophénicienne, etc. Souvent. Et Jésus a utilisé des femmes pour illustrer son enseignement. Il a parlé de la reine du Midi dans Matthieu 12, de la veuve de Sarepta dans Luc 4, de la femme de retour lors du retour de Jésus, hein, les femmes lors du retour de Jésus qui l'attendent, les dix vierges, etc. Et la femme qui cherchait sa pièce d'argent perdue, là aussi c'est honorable, elle va chercher sa pièce perdue. Et il a pris aussi la détermination d'une veuve comme exemple de la prière persévérante. Ou encore l'offrande de la pauvre veuve comme un exemple de générosité. C'est cela la virilité selon Jésus. Je pourrais dire, c'est un exemple pour les hommes et un refuge pour les femmes. Un exemple pour les hommes et un refuge pour les femmes. Et en ce temps de Noël, nous nous souvenons de la venue au monde de Jésus, celui que l'on voit dans une crèche. C'était un garçon, un être humain masculin, et ce n'est pas pour rien que c'était un homme et non une femme. Ce matin, nous avons vu quelques éléments du pourquoi. Premièrement, la masculinité englobe la féminité, elle ne l'écarte pas. Deuxièmement, la masculinité fait office de représentativité. Voilà pourquoi Jésus est homme. Et puis nous avons vu quelques éléments de la virilité selon Jésus qui est courageux et déterminé, vrai, mais au dépens de son bien-être. Donc il est capable de dire des vérités qui le mettront dans des situations difficiles. Qui vit la maîtrise de lui-même, qui ne cache rien, qui fait face à la souffrance. Si c'est un exemple pour les hommes, c'est aussi rassurant pour les femmes qui peuvent se confier en ce Jésus-homme parfait qui les représente aussi. Noël, c'est le temps de la lumière. Donc ma question, y a-t-il de la lumière dans ton cœur ? Noël, c'est le temps des cadeaux. Je suis sûr, les enfants, si je vous demande qu'est-ce que vous aimez à Noël, vous allez me dire « les cadeaux ». Qui n'aime pas les cadeaux, hein ? As-tu reçu le plus merveilleux cadeau, celui d'une vie lavée de tout péché, transformée pour chercher le bien et se détourner du monde qui passe, reçu par celui qui nous représente tous ? Noël, la lumière, le cadeau. Noël, c'est aussi le temps des familles, le temps de la famille. Eh bien, la question que j'aimerais vous poser, c'est « As-tu trouvé une famille spirituelle aimante où tu peux exprimer ton amour ?» En fait, après la prédication, quand on mangera ensemble, etc., vous pouvez réfléchir à d'autres éléments de Noël qui nous font penser à des éléments fondamentaux dans notre vie spirituelle. Et si tu ne connais pas ces éléments de Noël, eh bien, je t'encourage à regarder autour de toi et dire « Ah, mais toi, t'es chrétien ?» Vous demandez comme ça, hein ?« T'es chrétien, toi ? Tu crois en Jésus-Christ ?» Puis la personne dit oui, dit « Ah, ben explique-moi » Puis la personne va vous expliquer, parce qu'on a de la joie à expliquer ce que Dieu a fait pour nous, ce que Christ, cet homme, ce petit enfant, ce garçon, cet homme, est venu faire pour nous dans ce monde. Et bien sûr, je suis aussi à disposition pour cela tout à l'heure. J'arrive à la fin de cette prédication. J'espère que cette année, en ayant réfléchi à cette notion de la masculinité de Jésus-Christ, quelques éléments sont venus nous aider à progresser aussi dans la compréhension de qui il est pour chacun de nous. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ce petit garçon qui est venu dans ce monde, ou je pourrais dire même cette cellule qui a été créée, qui s'est développée jusqu'à cet enfant mâle, est venu dans ce monde pour nous représenter tous. Parce que en lui, nous retrouvons cet Adam. Marc a souligné dans la prophétie de la naissance de Jésus, où est le Père ? De même, Adam, où est son Père ? Comme le nouvel Adam, qui a le même, qui est celui qui crée, qui est celui qui donne la vie. Et nous voulons te dire merci parce que tu ne nous as pas laissés dans cette situation d'être perdus, parce que notre père de chair, Adam, nous a transmis ce péché et la mort que tout le monde vit. Tu nous as donné un nouvel Adam, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour que nous puissions être ressuscités, recevoir la vie spirituelle déjà, et dans l'avenir une vie pleine et complète, dans toute notre personne. Et Seigneur, cela, tu le promets pour tous ceux qui sont saisis par la grâce de Jésus-Christ, pour tous ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui saisissent que Christ a payé pour que nous puissions être purifiés, qui s'agenouillent devant toi en disant « Tu es mon roi ». Et j'aimerais te prier, Seigneur, que nous puissions vivre cette journée en nous rappelant que tu es un roi qui est bon et que la seule manière de bien vivre notre rôle d'homme, c'est de voir comment Jésus l'a vécu. Non pas comme il est peint sur des peintures de toutes sortes d'époques, mais comme il est dépeint dans ta parole. Et j'aimerais, Seigneur, te prier aussi pour toutes les femmes ici présentes qui sont si précieuses. Aucun homme ne peut être vivant sans femme. Quelle grâce, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Parce que tu veux que nous comprenions qu'il n'y a pas à chercher une place l'un au-dessus de l'autre. C'est toi qui es au-dessus. Et nous voulons te louer ensemble. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.